avoir une liberté de penser. Et à partir du moment où qui que ce soit Mathilde Panot ou un autre, a aimé une opinion, aimé un avis, il faut accepter la liberté de penser et ne pas aller dans l'autoritarisme comme on voit là aujourd'hui, et surtout donner gage à une organisation, l'organisation juive européenne, qui est contre toutes celles et ceux qui contestent ce qui se passe à Gaza.
Je laisse le soin à nos auditeurs, 01 53 48 3000, vous savez quoi, de nous appeler. Tiens, jingle sur
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
C'est l'heure de consulter les auditeurs. Solal vous accueille au standard. Vous pouvez nous inonder. Parce que vous savez quoi, je voudrais vous entendre. Voilà. Sabrina Nouri, qui représente LFI ce soir. Bon, je respecte son propos, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous en pensez? À vous de trancher et de venir nous dire, évidemment, qu'est-ce que vous pensez de toute cette ambiance. 01 53 48 3000. Tiens, Richie Thibault et Nerina Malard.
Oui, on fait face avec cette histoire d'apologie du terrorisme à une véritable chasse aux sorcières. Il y a une forme d'inquisition qui est en place et je le dis vraiment avec beaucoup de mesures, c'est extrêmement grave. La liste est de plus en plus longue. On a eu Rima Hassan, qui est juriste, rappelons-le par ailleurs, donc qui est quand même assez qualifiée en termes de droit pour prendre position sur ce conflit et qui n'a rien fait.
Alors certainement vous êtes tous d'accord ce soir, je le rappelle à nos auditeurs. Non mais attendez, sinon ils vont me dire oui, mais vous avez constitué un plateau où tout le monde est d'accord. Non, ce matin... D'accord.
Non mais là, il y a pas
ce matin, j'avais une personnalité qui représentait les Républicains qui m'a fait faux bon parce qu'il a eu un empêchement. Mais c'est important, parce que souvent on me le reproche, on me dit oui, Adil, tu n'équilibres pas le plateau, etc.
Adil, pour moi, c'est pas une question d'équilibre.
D'autant que l'enjeu là n'est véritablement pas partisan. Il s'agit vraiment de respect d'un principe fondamental, fondateur de notre dite démocratie. Et je dis bien dite démocratie au vu de ce qui se passe en ce moment, qui est la liberté d'expression politique. C'est consacré dans notre déclaration des droits de l'homme et donc dans le préambule de notre constitution. Il y a une véritable chasse aux sorcières. Je vais vous faire la liste. Rima Hassan, Anas Kazib, les étudiants de Solidaires de l'HESS, Mathilde Panot.
C'est pas un peu facile d'endosser l'habit de la victimisation, franchement.
Mais c'est pas une question de victimisation. Aujourd'hui,
vous écoutez pas aujourd'hui, les filles. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est nous les victimes et puis les autres, c'est des gens bien, tout le monde va bien.
Aujourd'hui, qui est poursuivi en l'occurrence?
Je pose la question.
Ceux qui dénoncent le génocide en cours à Gaza ou bien ceux qui en font l'apologie? Mayer Habib, par exemple, qui tient des propos à peu près vraiment scandaleux. Mayer Habib qui fait l'apologie du génocide à Gaza. Mayer Habib qui fait l'apologie des crimes contre l'humanité. Mayer Habib qui crache sur les institutions internationales, sur les Nations Unies. Le député, oui. Est-il convoqué pour l'apologie de ces crimes-là et des violations du droit international par Israël pour lesquelles il prend position? Moi, je vous parle de respect du droit. Aujourd'hui, dans le communiqué dont il est question, celui du 7 octobre, que Madame Panot assume la responsabilité en tant que présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise.
Elle ne reconnaît pas que le Hamas est un mouvement terroriste.
Est-ce que les gens ont lu ce communiqué?
On va pas recommencer le débat.
Qu'est-il dit dans ce communiqué?
C'est ce qu'on lui reproche. Moi, je fais que mon travail de journaliste. C'est ce qu'on lui reproche.
Dans ce communiqué, on demande. Soit on respecte le droit international, soit c'est la porte ouverte. Soit on respecte le droit international, soit c'est la porte ouverte.
C'est ce qu'on reproche aux personnalités comme vous de
l'Élysée. Le Hamas n'est pas considéré comme une organisation terroriste. D'accord? Ça n'existe pas juridiquement.
C'est là que le bas ne
blesse pas. On respecte le droit international. Le Hamas n'est pas considéré comme une organisation terroriste. Ça n'existe pas en droit international.
C'est les personnalités LFI qui le disent,
c'est le droit international, c'est le code.
Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que les gens qui parlent de ce communiqué l'ont lu. Et moi, je l'ai lu, ce communiqué qui a été rédigé le 7 octobre, et je trouve que c'est le communiqué le plus clairvoyant parce que c'est le premier groupe politique de ce pays qui a demandé, qui a exigé immédiatement après les attaques du Hamas ou du Ramas, selon les personnalités médiatiques, eh bien, le cessez-le-feu. C'est le premier groupe courageux à avoir demandé un cessez-le-feu dès le 7 octobre. Citez-moi un autre groupe parlementaire qui a demandé un cessez-le-feu le 7 octobre. Ça, c'est une position politique courageuse. Et le respect du droit international.
Nerina Malard.
Bien, moi, je pense
qu'est-ce qui vous fait sourire?
Rien, je regarde le
débat. C'est le Ramas.
J'aime voir des gens passionnés parler d'un sujet qui leur passionne, défendre des causes qui leur tiennent à cœur. J'aime voir ça. Et je vais aller sur un autre angle. C'est vrai, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, Monsieur Ritchie. On est dans un vrai problème de chasse aux sorcières.
Vous avez le droit, Monsieur Ritchie, quand même. C'est bien.
C'est pas rien.
Non. Ouais. Mais pour moi, ça me rappelle un peu le macartisme.
Absolument.
C'est ce que j'allais dire. C'est un climat de macartisme états-unien, mais au 21e siècle, en Europe, dans un autre contexte. Et ce que je trouve inacceptable, c'est que l'antisémitisme, justement, soit instrumentalisé à ses fins. machin. L'antisémitisme, ça existe vraiment. Et je trouve que c'est presque discréditer cette lutte que d'utiliser l'antisémitisme pour ça. Être pour la paix, c'est pas être antisémite. D'ailleurs, je voudrais aussi revenir sur quelque chose. Je trouve que ça témoigne véritablement d'une baisse de la démocratie. La démocratie, c'est pas que le vote.
Vous pensez qu'elle baisse, la démocratie ?
Oui, ça a été prouvé par l'Institut international de la démocratie. En Suède, la démocratie est en complet recul. La démocratie, c'est pas que le vote. C'est la liberté de presse, c'est la liberté d'expression, c'est la capacité à s'organiser.
La jeune génération, c'est la capacité
à se rassembler. Et là, on est totalement dans ça. C'est une opinion, ce n'est pas une incitation à la haine. Et cette opinion est jugée comme inacceptable. Des plaintes ont été portées. Et pour moi, ça témoigne clairement du baisse du niveau de la démocratie en France. C'est une opinion acceptable. On a le droit de défendre la paix.
Vous trois, vous écoutez parler, on dirait qu'il n'y a que ça à nourrir. Évidemment, Adine. Vous brodez quelque chose autour
de vous. Non, rien du tout.
On va solliciter nos auditeurs.
Allez-y.
Ça vous va?
Alors on prend les paris.
Non, c'est pas une question de pas, on n'est pas là pour parier. On parle d'un sujet sensible quand même. On n'est pas là pour faire du déjeu.
Qu'aux yeux de Monsieur Retailleau qui ricane à ce sujet, c'est pas...
Je précise quand même que l'humoriste qui a l'association dont dès qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe à Gaza, elle porte plainte. Donc elle a porté plainte contre l'humoriste, comment il s'appelle déjà, Guillaume Meurice.
Ah, Guillaume Meurice, oui.
D'accord.
Oui, oui.
Les plaintes ont été classées sans suite.
Oui, c'est vrai, j'y suis.
Donc je pense que tout ce qui se passe là, ça va être sans suite. Et donc là, on est en train de discuter sur un sujet. Et du coup, on ne discute pas des vrais problèmes que
on va chercher nos auditeurs. Smaïl, bonsoir, je vous accueille. Vous êtes de Juvisy, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bien dans le micro, bien dans devant le combiné. Oui. Vraiment, pas d'haut-parleur, parce que sinon, vous savez quoi, on a beaucoup, beaucoup de mal à vous entendre en direct, sinon. S'il vous plaît.
D'accord, vous m'entendez bien, là?
Non.
Allô, je suis là.
Oui, allez-y, parlez bien dans le micro. Parlez bien devant votre combiné, s'il vous plaît.
D'accord, alors, qu'est-ce que je veux dire?
Smaïl, je vais devoir. Non, Smaïl, je vous promets, ça passe pas du tout. Il faut parler bien devant votre combiné de téléphone et éviter les haut-parleurs. Réglez tout ça et je vous récupère tout de suite après. Leïla, bonsoir Leïla de Paris.
Oui, bonsoir, comment ça va?
Smaïl va vous expliquer à Smaïl. Solal va expliquer à Smaïl ce qu'il faut faire précisément, parce que sinon on pourra pas l'accueillir. Leïla, bonsoir.
Bonsoir, Adil.
Bonsoir, bienvenue. Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Moi, je travaille.
Vous êtes très bien. Travailleuse. Allons-y, je vous écoute. Bonjour, Merwan.
J'aimerais ajouter quelque chose, c'est qu'actuellement en France, oui, le gouvernement français joue le jeu des trois singes. Mmh. On n'accable jamais l'antisémitisme à sens inverse. Mmh. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses raciales vis-à-vis des musulmans. Ouais.
Il y a trop de gauchos. Alors, c'est pour ça que je dis, heureusement que je me suis justifié. J'ai essayé d'équilibrer le plateau ce matin. Voilà, je réponds aux auditeurs qui m'écrivent en temps réel. Leïla, allez à l'essentiel.
C'est fou, c'est
le sujet, voilà, allez-y. Parce qu'il y a beaucoup de monde au standard.
Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec les propos de la parlementaire. Parce qu'en fait, ce n'était pas des.
Dès qu'on fait plaisir à Sabrina, ça y est, elle est contente. Hein.
Non, mais pas du tout.
Sérieusement, parce que je pense que c'est qu'une opinion qu'elle a donnée.
Mais bien
effectivement,
sûr, elle a raison.
La liberté d'expression, j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus censurée en France.
Les auditeurs et auditrices
se disent,
Adil.
Mais moi, j'ai pas.
On n'a pas le droit de donner.
Moi, je suis pas juge.
On n'a pas le droit de donner une opinion. Quand il s'agit du peuple, excusez-moi, juive, on n'a pas le droit de donner nos opinions, on n'a pas le droit... Mais attendez, le génocide, il n'y a pas que les juifs qui ont vécu un génocide. Hein. Aujourd'hui, il y a des génocides arméniens,
on ne peut pas mettre sur... Non, mais on peut pas... N'allons pas sur terrain, parce que sinon, après, ça va être explosif sur le plateau. On ne peut pas comparer la Shoah avec ce qui se passe sur ce moment à Gaza.
Mais on ne compare pas ça, dit-on.
C'est ce qu'elle entend. Il y a quelque chose de sous-jacent dans ce qu'elle dit.
Elle n'a rien dit.
J'entends.
Non.
Non, je vous écoute. Aujourd'hui, encore une fois, je le redis, malheureusement, on est arrivé à un stade où on ne peut rien dire sur ce peuple-là, on ne peut pas parler.
Si, vous pouvez dire des choses, pourquoi la preuve, tout le monde condamne Netanyahou. Tout le monde condamne Netanyahou. Mais si, vous ne pouvez pas dire ça. Vous avez le droit de dire, vous avez le droit de dire que Netanyahou, par exemple, est un criminel. Pourquoi vous le dites ?
Attention, on a souvent une convocation.
Je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de moi. Je dis, sur ce plateau, beaucoup ont défilé pour dire que Netanyahou était un criminel. Sur ce plateau même. Je
me permets. Sur ce plateau même. Dans le 20e siècle, oui, c'est l'homme le plus criminel que je connaisse sur Terre. Le nombre d'enfants morts à Gaza, le nombre de personnes mortes à Gaza, mais c'est juste insupportable. On a alors que ce soit l'ONU, toutes les organisations mondiales, ils ont beau à dire les choses, il n'y a personne qui bouge son petit doigt. Alors sous prétexte qu'une parlementaire a donné son opinion, ça devient l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est dans les deux sens. Parce que nous aussi, les musulmans aussi s'en prennent plein la figure. Et c'est de l'antisémitisme. Pourquoi on n'irait pas porter plainte contre toutes les associations juives qui se permettent de dire des horreurs sur le peuple de Gaza?
Merwan, il va vous répondre.
J'ai misé sur les transports en commun parisiens et alors du coup j'ai eu quelques mésaventures.
Petite clochette à
la faute des autres.
C'est ça. Répondez à Leïla.
Non, mais je vais même aller dans son sens parce que je me souviens qu'il y a quelques temps il y a un humoriste qui a fait une blague sur Netanyahou et on dit qu'on peut critiquer Netanyahou ou même en rire. Ben c'est pas le cas parce qu'il a été convoqué par la police, donc ça veut bien dire qu'il y a certaines limites qu'il ne faut pas dépasser. Et je dirais que dans cette logique à vouloir à chaque fois incriminer les politiques ou des personnalités publiques, dire que ce sont des antisémites, on prend le risque de ne plus savoir ce qu'est un vrai antisémite. Et alors du coup, dans l'indistinction générale, c'est là que les pires choses peuvent arriver. Alors à force de crier à l'antisémitisme pour rien, on risque de...
Allez,
on risque de rendre ça complètement...
On me demande de faire la pause, Solène me demande de faire la pause. Merci Leïla d'être intervenue. On aura entendu votre coup de gueule. Je vais juste accueillir Rudy du 91. Avec plaisir, Leïla.
Oh, Rudy.
Bonjour Rudy. C'est pas le Rudy qu'on connaît, je crois.
Bonjour Nadine, bonjour tout le monde.
Monsieur. Rudy. Non, c'est pas le Rudy qui vient de débattre chez nous. Non, ça n'a rien à voir.
Ah bon,
non. Rudy, vous nous appelez de quelle ville?
Saint-Pierre-du-Perret, là.
Aussi. Ah ouais, voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Rudy?
Je suis entrepreneur.
Rudy, vous savez ce que je vous propose? On marque une courte pause et on se retrouve avec vous en direct pour parler de cette situation extrêmement sensible. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, la Rudy. 19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Comment j'entends ? Justement, 19h38 avec Sabrina Nouri, justement, Nerina Malard, Richie Thibault et enfin Merwan Mehoubi. Je vais accueillir Rudy. Je vous avais dit, Rudy, que je vous allais vous accueillir tout de suite après la pause. Rudy, dites-nous tout, on vous écoute.
Parlez bien
devant votre combiné, parce que ça brouille un peu, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça brouille.
Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui.
Ok. Alors, déjà, il y a deux problèmes qui sont évoqués. Je vais faire très succinctement, Adil. C'est que, premièrement, est-ce qu'on peut tout dire? Oui, on peut tout dire. On a un double problème. C'est que les gens n'acceptent pas de payer le prix de leur liberté. Et le problème, il est là. On n'a pas le droit. Qu'est-ce qui est interdit par la loi? On n'a pas le droit à la station Alain Rassal. Oui. On n'a pas le droit de commettre des actes ou des propos islamophobes, racistes, antisémites. Oui. Mais la pensée en elle-même, on n'est pas obligé. On peut dire les choses de manière calme, franche, et finalement accepter cette franchise. Le problème est que certains n'assument pas leur rejet, leur haine. Appelez ça comme vous voulez.
Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se dit ici sur ce plateau, mon cher Rudy?
Très simplement, c'est que les gens n'osent pas dire, dites-le en une phrase, je préfère défendre cette cause parce que les gens qui sont victimes sont musulmans. Voilà, dites-le.
Vous pose une question, Rudy.
Je suis pas sûre. Les gens.
Alors, Nerina.
Désolée, les gens défendent cette cause aussi.
Il s'appelle Rudy.
Ok, Rudy, les gens défendent cette cause pas seulement parce qu'ils sont musulmans, mais parce que ce qui se passe, c'est colonial. Ce qui se passe, c'est...
Non, madame, si, c'est pas ça le si, problème.
Historiquement, c'est mais colonial non, ce qui se passe.
Attendez, écoutez-le, Rudy, c'est pas ça le problème. C'est quoi le problème?
Au moment où on se parle, aujourd'hui, on a toujours un problème avec les Ouïghours. Hop, fermez les yeux, il n'y a rien à voir. On a toujours un problème entre musulmans et bouddhistes en Birmanie. Fermez les yeux, il n'y a rien à voir. On a toujours un problème à l'est de l'air des Congos. Fermez les yeux, il n'y a rien à voir. Les gens, dites-le en une phrase, assumez-le, ce n'est pas un gros mot.
Merci pour ces précisions. Mais vous avez raison, c'est vrai de vous citer.
Mais
moi, vous posez, non, vous, mais vous avez répondu, Nérina.
Sur le plateau, personne n'a de double standard. Pour nous, ce qui compte, c'est la dignité humaine.
Mais il pose une vraie question,
du globe. Et quand il y a un génocide, ou du moins un processus génocidaire, au Congo, en Palestine, ailleurs, quand il y a des faits coloniales, les Ouïghours, évidemment, on le dénonce. On n'est pas comme M. Glucksmann, qui passe tout son mandat aux élections européennes à dire oui, les Ouïghours, c'est scandaleux à juste titre, et qui là, face au génocide en Palestine, ne prononce pas un mot de condamnation à la hauteur. Nous, on n'est pas ici adeptes du double standard. Hein.
Et puis on oublie souvent de dire qu'à Gaza, il y a des chrétiens, et qu'en Israël, il y a des personnes qui se lèvent tous les jours contre ce qui est en train de se passer à Gaza. Mmh. Et ça, il faut le dire. Il faut aller au-delà des confessions religieuses.
Merci pour votre intervention. Oui, oui, dites-moi.
Payons individuellement et collectivement le prix de la liberté de penser et de dire ce qu'on a envie de dire. Ce n'est pas un gros mot de dire. Je suis plus sensibilisé à cette cause et contre certaines de ces personnes parce que... Et le problème en France, dans l'opinion, c'est qu'on ne l'assume pas. Et là où il y a de la discrimination, c'est de dire... Il faut autant sensibiliser sur ce qui se passe à Gaza que se sensibiliser...
Ce qui met en exergue là, effectivement, il faut l'entendre. Rudy, je vous libère, merci infiniment, et vous avez raison, c'est vrai que là, ce que vous avez soulevé, évidemment, sur ces différentes, sur les événements qui se déroulent un peu partout dans le monde, il a raison de pointer du doigt là où le bas blesse, c'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que la situation à Gaza, évidemment, il l'a dit, Rudy, est-ce qu'il faut le voir plutôt sur cet angle ou plutôt de l'autre?
Ce qui est sûr, c'est pas du tout un conflit religieux. C'est comme l'a très bien dit Irène Hatter, c'est un conflit de nature coloniale qui remonte au Bamo à 1948. Et il faut arrêter, comme le font contrairement à ce que font certains médias depuis le 7 octobre, de donner une dimension essentiellement religieuse à ce conflit, car ce n'est pas le cas. C'est un conflit de nature coloniale, point à la ligne, et c'est à partir de ces regards-là, de ces lunettes-là, et du regard notamment du droit international, qu'on doit prendre position sur ce conflit.
Tout à fait vrai. D'ailleurs,
je reçois un message en direct. Il y a une auditrice qui nous dit qu'il faut parler du peuple israélien et des otages qui sont des civils qui n'aiment pas Netanyahou. Et ça, vous avez tendance à les oublier. Elle a pas tort.
Non, mais
c'est des messages que je reçois en temps réel.
C'est vrai de le rappeler, puisque dans les médias français, on a tendance à polariser et à dire qu'à partir du moment où on est un peu critique envers Netanyahou, on serait antisémite. Non, ou alors quand on soutient la cause palestinienne, on serait antisémite. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, et preuve en est, c'est qu'il y a des Israéliens qui sont absolument contre Netanyahou pour la libération des otages, comme il y a des Palestiniens et aujourd'hui des Français de confession musulmane qui sont pour la libération de ces otages.
Smaïn,
voilà.
Smaïn, bonsoir. Rebonsoir, Smaïn. Vous avez pu vous régler votre aspect technique avec votre téléphone, Smaïn?
Oui, bien sûr.
Ah bah voilà. Vous avez vu, tout de suite, ça change tout, hein, tout de suite, Smaïn. Vous avez vu? Allez, on vous écoute, bienvenue.
Merci. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vos invités.
Vous étiez bien, et là, ça vous avez replongé dans le haut-parleur. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Dans les ténèbres.
Et je pense que vous entendez.
Ouais, on vous entend trop loin, hein, mon ami, hein, mon cher Smaïn.
Allô.
Oui. Non. Non.
Je pense que.
Non, on a un gros problème. Smaïn, je suis désolé, je ne peux pas vous garder à l'antenne, Smaïn, pour une raison toute simple, c'est que c'est inaudible. Je ne vous entends pas du tout à l'antenne. Et on ne peut pas. 0153-48-3000, vous pouvez venir, évidemment, commenter l'actualité. Et je voudrais qu'on avance quand même. Et parler, vous savez quoi, d'un autre sujet. C'est celui des couvre-feux pour les mineurs. Alors, de plus en plus de villes. Hein. On a Nice, on a Béziers, on a Perpignan et plein d'autres. Ces maires, vous savez quoi, qui ont envie de serrer les vis, qui en ont marre. Clairement. On a 13 ans. Bah, la raison, qu'est-ce que vous faites dehors?
On n'a rien à faire dans la rue.
Voilà, Berwin Sir.
Oui, on n'a rien à faire dans la rue à passer une certaine heure. Et d'autant qu'aujourd'hui, on a des parents qui réagissent pas, ou qui sont plus
donc,
concernés.
Donc, couvre-feu, vous êtes pour l'instauration du couvre-feu c'est pour les moins de 13 ans.
C'est peut-être à la communauté nationale aussi et à certaines communes de prendre certaines mesures et de faire ce que les parents, certains parents, ont décidé
après,
de ne pas faire. C'est-à-dire
de
mettre des limites parce que c'est pas leur servir. Parce que finalement, c'est pas leur servir que de leur laisser libre accès à n'importe quoi. Je parle pour les réseaux sociaux, n'importe quel contenu, ou alors de faire ce qu'ils veulent de leur vie à partir de 13 ans, c'est-à-dire être dehors sans être cadré. Donc non, si l'État peut les cadrer, oui, ça peut être une solution.
Mais alors là, ça veut dire que vous remettez en question un principe constitutionnel, un principe qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, savoir la liberté de circulation. Et dans ce cas-là, si vous voulez régir,
c'est
des
enfants.
Quand on veut sortir à 20h, 21h à proximité de chez nous, il n'y a pas de souci. Nos parents nous surveillent, mais ça veut dire qu'en gros, dans les campagnes ou dans certaines zones, on pourrait circuler non-stop, mais dans certains quartiers, alors, non, à partir de 21h, on enferme.
C'est dans certaines communes,
le vrai sujet, c'est qu'effectivement, il y a des problèmes qui sont dus à un manque de moyens colossal et d'investissement dans les quartiers populaires qui nourrissent des phénomènes, effectivement, de délinquance.
Il y a pas mal d'investissements dans certains quartiers populaires.
Et comme il y a une volonté de ne pas agir,
l'échec gravissime du gouvernement depuis 2017 qu'il est au pouvoir Macron. Un échec.
Et aujourd'hui
l'échec de ces politiques publiques qui sont mises en œuvre depuis 2017. Le résultat,
le matraquage des services publics, c'est pas Macron. C'est pas Macron. Auditeurs m'entendent.
Je suis pas l'ambassadeur
depuis
de
2017. C'est pas la casse des hôpitaux. C'est pas la casse du service public depuis 2017 qu'il est au pouvoir. Non, à un moment donné, on a le droit de se mettre en colère. Parce que là, il s'agit de nos enfants, a dit le Ferkan. Il s'agit de nos enfants, qui vont dans des écoles où le toit leur tombe sur la tête, où il n'y a pas de moyens, où les profs sont en arrêt maladie, où il n'y a pas d'AESH.
Donc c'est justifié que les enfants se retrouvent tout seuls. À 13 ans.
Mais moi, je peux.
Pourquoi vous allez directement? Pourquoi vous faites le lien comme
non,
ça direct?
Non, mais c'est une conséquence.
Non, mais à un moment donné, cette conséquence, elle vient bien de quelque part, et ce n'est pas la faute des parents.
C'est en partie la faute des parents.
Quand vous travaillez à 5 heures du matin, et que vous rentrez très tard le soir,
lorsque vous faites des enfants,
vous signez, quand toutes ces femmes, ces mères isolées, faisaient le ménage dans les hôpitaux pendant le Covid, vous étiez tous bien contents. Et aujourd'hui, on les accable parce que leurs enfants de 13 ans sont
mais
à la rue.
Les quartiers populaires sont des femmes isolées.
Je suis très en colère. Je suis très en colère par les annonces qui ont été faites par monsieur Attal, qui ne reflète pas la réalité, qui stigmatise, qui montre du doigt. C'est inadmissible dans un pays qui est comme le nôtre, la France, 7e puissance mondiale. C'est inadmissible. L'école est à terre, l'hôpital est à terre, tout le monde est à terre.
On a entendu votre cri d'alarme.
Il y a une phrase, c'est que de vouloir stigmatiser la banlieue de l'angle de la gauche, c'est-à-dire que parce que vous êtes dans un milieu modeste, vous devez avoir besoin de plus d'aide, vous devez avoir du soutien.
Je vais finir ma phrase.
Alors que en banlieue, ce sont des parents qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui font tout pour que leurs enfants soient cadrés.
Merci.
Alors pourquoi
Pourquoi viser seulement les enfants des quartiers populaires? Moi, je pense que même un enfant de bourgeois à 12-13 ans, il n'a rien à faire dehors. Là, c'est tout simplement de la stigmatisation. Par exemple, on n'a jamais pensé à interdire les soirées étudiantes avec des étudiants qui font du bruit, qui laissent traîner la saleté dehors.
Tous les enfants de ce pays ont des droits. Vous avez rigolé comme si c'était pas le cas. Effectivement, en France, il y a un principe qui s'appelle l'égalité en droit. Donc, soit vous faites une loi qui interdit à tous les jeunes de moins de 13 ans de sortir chez eux, ça s'applique sur tout le territoire. Soit vous le faites nulle part.
La délinquance juvénile,
c'est très scolaire comme analyse, mais ça ne s'applique pas au terrain.
C'est la délinquance juvénile.
Mais
c'est quoi les mots que vous inventez?
Il y a des zones où vous avez des enfants qui sont beaucoup plus orientés, qui peuvent être beaucoup plus orientés, absorbés par la délinquance de par le milieu dans lequel ils sont. Et s'ils ne sont pas cadrés, ils ne pourront pas être mis dans la direction.
C'est vrai que certains milieux sont plus difficiles que d'autres, mais si on les stigmatise,
plus tu vas
stigmatiser,
plus
ça va empirer la situation.
C'est quoi le débat continu?
Je pense qu'il y a d'autres manières d'apporter
un cadre militaire, c'est ça? C'est ça votre projet, le cadre militaire. C'est bon, on a compris les annonces.
Merci à vous, merci à Sabrina Nouri, merci à Merwan Mehoubich, merci à Richie Thibault, merci à Nerina Malard, merci à la réalisation, à Solal, Milan Lenman, Time Sport, Vanessa 21h, demain c'est Kim, à demain avec autant de plaisir. Le débat est toujours passionnant effectivement, et il doit être mesuré, parce que bon, on a tendance parfois à se laisser évidemment emporter par les émotions. 0153483000, on remet ça demain avec autant de plaisir.
Vous pouvez les informer tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, la rediff. Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est en Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue en ce mercredi 24 avril 2024, 20h pétantes, et c'est l'horaire de votre quotidienne sportive qui n'est autre que Time Sport. Au programme de cette émission, chers auditrices et auditeurs, on va parler de quoi? Des Gunners d'Arsenal face aux Blues de Chelsea. Le derby donc londonien d'hier soir en Première Ligue a fait ravage. On parlera aussi du Paris Saint-Germain. Justement de ce fameux Paris Saint-Germain, et pas que aussi, on aura justement Luis Enrique, le Real Madrid aussi au menu de cette émission, parce qu'il faut pas l'oublier, ce Real Madrid, il faudra justement s'en inquiéter, parce que Madrid est toujours là, et justement ça fera le plus grand bien de tout le monde. Voilà, ce soir on va en parler avec toute l'équipe de Time Sport pour m'accompagner au 01 53 48 3000. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir avec nous ce soir sur cette antenne. Sans plus tarder, on va présenter la magnifique équipe qui m'accompagne ce soir.
Time Sport. Il est pour parler.
Allez, ce soir, justement, Madrid, c'est le débat du jour. Ce club tant décrié, mais donneur de tempo à chaque saison. Et oui, toujours critiqué, mais toujours là. Marseille qui rencontrera ce soir, fera face à son fameux marathon. Et oui, le marathon, parce que Marseille est toujours dans ce dernier carré, dans son antre qu'est l'Orange Vélodrome. Elle rencontrera le derby, du sud, azuréen plutôt, et de cette région PACA, les Aiglons de Nice. Le 01 53 48 3000 pourrait réagir tranquillement sur cette antenne de Beurre FM. Juan Trossé est avec nous ce soir. Bonsoir Juan Trossé.
Hola, buenas tardes a todos. Effectivement, pour parler de Luis Enrique, mais parler aussi
Luis Enrique, bien sûr, entraîneur
du Real Madrid, tu l'as annoncé.
Ils sont
enchantés de revenir en plateau avec vous tous.
Et ben voilà, le sommaire de ce soir, il est fait spécialement pour toi, j'ai l'impression, Juan Trossé. On est aux couleurs de l'Espagne, on a l'impression.
Parler de Luis Enrique, c'est parler de l'Espagne. Parler du Real Madrid, c'est forcément parler de l'Espagne.
Ouais.
Je vous dirais même que parler du PSG, c'est même parler de l'Espagne. Il y a quelques joueurs espagnols qui sont aussi au PSG.
Ouais, bien sûr. Oui, faut pas l'oublier, ça fait sourire. Justement, Karim. Allez, Karim, bonsoir, comment ça va?
Bonsoir à la communauté Time Sport. Comment ça va, Bilal?
Ça va bien, Karim.
Ouais, bah, on prépare plein de choses pour la communauté, pour cette émission.
Il met le pied à l'étrier, Karim.
Bah oui, on entend de plus en plus parler. N'hésitez pas à réagir. Voilà, donnez votre avis. Écoutez-moi parce que je suis le meilleur.
Bien sûr. Vas-y, tu as raison. Mettons en avant.
On a un plateau de qualité. On a des intervenants, des chroniqueurs de qualité. Et franchement, on vous prépare plein de bonnes choses. Et moi, j'avais une petite idée. Bien
allez, vas-y.
Le monde contre Karim. T'en penses quoi?
Le monde contre Karim. Ah ben pourquoi pas. S'il est assez gentil, on mettra pourquoi pas une chronique d'ici la saison prochaine. Voilà. Sachant que le monde contre Karim.
Sachant que mon vrai prénom Bilal, c'est Fouad Trédunion Karim. Comme Juan Rosé, c'est un prénom composé. Moi, je m'appelle Fouad Karim. Mais tout le monde m'appelle Karim parce que c'était un peu compliqué.
Bon, faudra choisir alors.
C'est Karim.
Justement, Karim, il est avec nous ce soir. On a vu le président aussi Macron, du côté de Plaisir en région parisienne, affronter le Variété Club de France, c'est ça?
Exactement.
Avec toute la troupe de Monsieur Vendroux, notre confrère.
Il a commis beaucoup de fautes, Monsieur Macron.
Oui, c'est ça. Ouais, il y avait beaucoup de joueurs aussi, d'anciens gloires du football mondial, sur ce terrain. Jouba, juste en face de Karim, qu'on peut apercevoir. Ça va, Jouba?
Ouais, ça va, on est là. Je suis content d'être avec vous, auditeurs, auditrices, l'équipe.
Aussi.
Et voilà, on a vu Macron jouer au foot. Ouais. C'est le même niveau que la politique,
Jouba,
mais heureusement que le gardien a su ne pas bouger pour le laisser au moins marquer sur penalty, parce que sinon aïe chicos, comme ils disent en Espagne pour on a mis Asturien. T'es Asturien, Juan Trossé, non? Comme Enrique, non?
Non, j'ai passé mes vacances aux Asturies. J'étais la semaine dernière en train de voir un match de l'Sporting de Gijón. C'est là où a débuté Luis Enrique.
Il a été tant critiqué, mais justement ça fait plaisir de l'avoir avec nous. Il y a Karim, il y a Jouba, il y a Juan Trossé, mais à la réalisation, allez, c'est notre Solal National. Bonsoir Solal.
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ouais, but de casquette avec Emmanuel Macron et masse casquette, justement, il y en a un qui en a plusieurs ce soir.
Alors,
on a une belle sur la tête, c'est
Moha le Duc.
Qui est derrière un micro et cette fois-ci derrière une caméra.
Derrière une caméra,
chers amis, des sujets incroyables, on va parler de Madrid, d'Enrique, de Marseille, mais forcément Madrid qui agite la foule, n'est-ce pas, Dylan?
C'est ça, Madrid, voilà la passe D de Solal à la Bellingham, justement, qui est méfaite. Et oui, ça, il a été temps d'écrier le dernier but, lors de ce classico contre Serre. On va pas en revenir, peut-être rapidement avec toi. Mais Madrid, assez critiqué par les bookmakers au niveau européen, voire mondial, mais Madrid est toujours présente. Cette équipe, elle est toujours là.
Madrid est toujours présente. Ils n'ont pas gagné la Liga, mais c'est presque comme si c'était fait, puisque avec 81 points, donc 9 points devant Barcelone, à quelques matchs de la fin de la saison, mathématiquement, ils n'ont pas gagné, mais la réalité, c'est qu'ils vont être champions de la Liga espagnole. Le Real, qu'on a tant critiqué après le départ de Karim Benzema, qui va pouvoir remplacer Karim Benzema. Et apparemment, ce Real-là, avec un surprenant Bellingham, personne n'attendait Bellingham à ce niveau des performances, a réussi à faire une superbe saison. Et ils sont en demi-finale, effectivement, de la Champions League, là où on ne les attendait pas peut-être cette année. Mais tout ça, c'est sans oublier qu'ils ont quand même une grosse équipe.
Alors,
c'est vrai que des joueurs comme Nacho, comme Carvajal, qui sont là depuis 12-15 ans, sont toujours là, toujours très efficaces. Vasquez encore ce week-end, qui a montré toute l'étendue de son talent, qui va certainement être rappelé en équipe d'Espagne. Et puis Rodrigo, dont on disait, qui pourrait partir à la fin de saison, mais qui a montré cette année qu'à côté de Vinicius, il était aussi capable d'apporter des choses à cette équipe du Real Madrid, dont le Real Madrid, qu'effectivement, qui continue à surprendre. Si est-ce qu'on est surpris parce que le Real gagne, il faut juste rappeler, c'est la meilleure attaque du championnat espagnol cette saison, c'est la meilleure défense du championnat espagnol cette saison, et ils ont même découvert qu'ils avaient un gardien remplaçant.
Incroyable.
Dans la figure de Lunin, ouais, donc incroyable. Personne avait confiance, et quand il a fallu qu'il aille remplacer au pied levé Courtois, bah, il a montré effectivement que c'était un grand gardien, même s'il avait très peu de minutes au Real Madrid. City, donc, hein. C'est pas étonnant qu'il soit là. Maintenant, il va falloir conclure le travail. Le conclure des travails, c'est aller éliminer le Bayern lors des demi-finales. Espérons effectivement qu'en finale, ils iront chercher la 15e, pourquoi pas, du côté de Wembley cette année.
Karim, réaction avec Karim.
Le Real Madrid est tellement grand qu'on se demande même s'ils ont acheté des arbitres. Donc ça veut dire Non, mais c'est vrai.
Non, quand même.
Non, mais quand même quelques histoires. Bon, juste là, on l'a dit, le dernier match de Barcelone, il y a eu le dernier but, c'était litigieux.
Ouais, mais c'est pas prouvé, c'est ce que tu viens de dire.
Mais justement, mais en fait, ils sont omniprésents, ils sont omnipotes. C'est incroyable, le Real Madrid.
Le Paris Saint-Germain aussi est omniprésent.
Non, mais là, ça dépasse le Paris Saint-Germain, le Real Madrid. Mon Bilal,
c'est une institution
qui est trop grande. Et mon deuxième argument, c'est Florentino Pérez, lui qui a décrié la Ligue des Champions, lui qui voulait faire la Super League,
qui s'est filmé
derrière les trophées de Ligue des Champions qu'il avait emporté avec son club, ouais. et qui prône une nouvelle ligue qui a rien à voir avec l'UEFA et l'Europe. Honnêtement, c'est vraiment, moi je trouve ça un peu trop facile de leur part. Ils ont trop de possibilités. On laisse trop faire le Real Madrid, et il faudra que ça change.
Ouais, c'est un club. Le Real Madrid, tu vas trop loin.
Même leur stade, en dessous leur stade, ils peuvent faire différentes.
Mais ils ont l'argent.
C'est un club.
Vas-y, joue.
Qui en plus a des socios, donc t'as toute une ferveur supplémentaire. Le Real Madrid, c'est une énorme institution, top one des clubs mondiaux, j'ai envie de dire européens au minimum, qui a remporté, comme disait Juan José préalablement, des titres par milliers et par centaines du moins. Et voilà, donc le Real Madrid a su se renouveler après le départ de Benzema, avec, comme l'a dit, des joueurs qui ont su renouveler, mais c'est surtout la patte d'Ancelotti qu'on a annoncé au Brésil en 2024, et donc il faudra aussi s'attarder. Je crois que ça a été et la rétro-pédaler là-dessus, tu m'apporteras davantage d'informations, parce que j'ai pas exactement suivi le dossier, Juan José. Mais en tout cas, c'est Ancelotti, c'est top entraîneur aussi. C'est évidemment tout le poids de l'histoire, hein, qui les aide à avancer, que ça soit en Liga, puisqu'ils vont être champions à très peu de choses près, et que ça soit dans cette Ligue des Champions dont ils ont maintenant coutume d'aller très loin et d'avoir décroché. Hein.
C'est pas rien, la Ligue
mais
des
c'est
Champions.
Pas rien, c'est pas rien. Mais c'est aussi tout cette ambiance-là, le Bernard. Bernabéu est magnifique. C'est tout ça en fait. C'est la culture foot, ça transpire foot, ça vit football quoi. Pour Ancelotti, je sais pas. Juan José, je sais pas si t'as des infos. Alors, il devait aller au Brésil.
Il devait aller. Il a renoncé à aller au Brésil.
Voilà, c'est ça.
Il a encore un an de contrat. Il est probable qu'il aille l'année prochaine ou dans deux saisons du côté du Brésil. Mais pour l'instant, ça reste du domaine du possible. Il y a rien de signé.
Ouais, en plus.
Ouais, Karim. Vas-y, réaction de Karim.
On voit qu'Ancelotti, il n'a pas encore re-signé au Real Madrid. Il n'est pas encore la saison. Et on lui pose un problème. C'est le cas d'Arda Güler, le jeune turc, la jeune pépite turque, qu'on ne voit plus en fait sur les terrains. Donc là, ça pose déjà un problème. Moi, ce que je voulais revenir sur le Real Madrid, c'est on les surnomme la Maison Blanche. Donc là, à partir de ce moment-là, la Maison Blanche, moi, je fais référence directement. Je vais pas rentrer dans la politique, mais ça me fait référence. Voilà, Maison Blanche, vous savez à quoi je fais référence.
Ouais,
et j'ai l'impression
qu'ils
sont trop puissants, ils ont trop de marge de manœuvre. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se cache derrière toute l'institution Real Madrid. Parce que vraiment, pour devenir autant le foot, pour avoir autant de poids sur le football mondial européen, franchement, mais qu'est-ce qui se trame dans ce club en fait? Moi, je me pose une
vraie question. Qu'est-ce qui se trame?
Je sais pas,
les plus grands champions de
l'arbitrage. Le Real Madrid est favorisé en Espagne.
Ouais,
c'est pas moi. Il n'y a pas tout.
attention à ne pas rentrer dans la fenêtre complotiste, attention, parce qu'ils se sont forgés, c'est pas un club.
Je suis pas né à Madrid.
Il est pas né à Madrid. Ouais, du côté de Valence.
De Valence que de Madrid.
Peut-être il va répondre à Karim.
Déjà, la question, elle est mal intentionnée, quand même. Ça, j'arrive, mais il faut. Alors, Karim contre le monde, il a tout à fait raison. Le Real Madrid, c'est peut-être un club centenaire. C'est peut-être le meilleur club du XXe siècle, ce qui a été défini, qui a été nommé par la FIFA. C'est peut-être un club qui n'appartient pas à un État ni à un actionnaire. C'est un club qui appartient à ses 150 000 socios.
T'as quand même le roi qui investit des
fois. Puisque ce n'est pas une société anonyme, ce n'est pas une société sportive, c'est une association comme l'est le Barça, comme l'est l'Atlético Bilbao. Donc ça appartient, c'est une association, ça appartient à ses adhérents, donc à ses socios.
Le roi injecte des
thunes
aussi.
La différence entre le Real Madrid, club, on ne sait pas qui se trame derrière, c'est que quand eux demandent un crédit, il faut qu'ils le payent, parce que c'est les socios qui payent, quand c'est un État derrière, peu importe que ça s'appelle PSG, Manchester City ou autre, il y a un État derrière qui paye, ça s'arrête là. Donc, la différence, c'est aussi justement, c'est un club, c'est une institution, c'est le mot qu'il faut toujours garder. C'est une institution.
Mais d'où vient cette puissance, Juan José?
Florentino Pérez, ça vient de ce que vous avez dit. Ça vient d'un président qui n'a pas bougé depuis pratiquement 20 ans. Il y a une période de 3 ans, 2 ans où il a été... où il a perdu des élections, mais il est revenu depuis, il est là. Donc c'est un staff qui est plus ou moins stable au niveau de la direction. C'est un club, c'est des joueurs qui sont, c'est un projet sportif qui est toujours là. J'ai fait ces références. Quand vous avez des Carvajal, des Nacho, quand vous avez des Lopez, des Vázquez, quand vous avez des Ronaldo à l'époque, des Benzema, des Kroos, des Modric,
des Vinicius,
c'est des joueurs qui sont pour la plupart depuis 10, 12, 13, 14, 15 ans. Donc c'est un club qui sait choisir ses joueurs,
qui sait travailler,
dans la durée. Plus des Casillas, des Ramos, des Raoul qui sont passés aussi par le Real et qui ont fait pratiquement pour la plupart leur carrière au Real. Casillas est parti par la
suite. Michel Salgado,
Michel Salgado encore, qui est aussi qui a été d'ailleurs au club après en tant qu'entraîneur. Donc voilà ce qui est ce qui se trame, comme tu disais, derrière ce club.
Quand tu dis que c'est que des socios, etc., quand il y a eu l'arrivée de Kaka, Ronaldo, etc., il me semble bien qu'il y a eu un investissement du roi d'Espagne.
Ça, c'est complètement faux, comme cette histoire qui traîne en France depuis 20 ans ou 30 ans où on dit que le roi d'Espagne aurait fait.
C'est complètement faux.
Le club, c'est une association. L'argent appelle l'argent. Vous faites venir, rappelez-vous, Ronaldo,
Kaka,
et pas que Beckham est aussi passé du côté de.
D'où vient l'argent?
Mais c'est le Real qui demande des prêts. Et les prêts sont là. Tout le monde les connaît puisque c'est officiel. Il est beaucoup plus facile de prêter au Real Madrid que de prêter à Gironde.
Parce qu'il gagne des titres.
C'est la réalité.
Eh oui.
Karim, rapide. On va retrouver sur le cas du Real.
Par rapport à Clément Turpin, a été choisi pour le premier match de Ligue des Champions pour le Real Madrid face au FC Bayern.
Ça
veut dire que c'est pas un cadeau. Donner Clément Turpin pour une demi-finale à aller en Ligue des Champions, c'est pas un cadeau.
Merci beaucoup, Jouba. Solal, merci de l'info.
Merci Juan pour ce sujet abordé des socios. Et c'est vrai que ils payent, mais le travail paye aussi. Ce qui veut dire que ce Real là aujourd'hui, il y a une expression qui veut dire on est en place, ils sont en place, je suis en place. Le Real, il est même plus en place, c'est eux qui placent le niveau en Europe.
J'ai l'impression.
C'est eux qui est le curseur de niveau en fait. C'est tout simple. Chaque année, on a beau les critiquer, c'est une équipe qui inspire la confiance.
Ils sont là, Solal.
Ça fait mal au cœur quand on supporte l'Atlético, le Paris Saint-Germain, et qu'on tombe contre eux ou qu'on les voit soulever chaque année des coupes. Mais je suis désolé. Ce Real là a une magie dont seul lui a le secret, et c'est beau à voir malgré tout. Ils ont beau se faire rouler dessus pendant 80 minutes, ils ont quand même la mentale des Lille à gagner. C'est une mentale qui, comme tu l'as dit, oui, n'est pas que insufflée par quelqu'un qui va mettre de l'argent dans ce club-là en pensant que en 3 ans c'est réglé, allez on soulève la coupe au Grand Soleil. Non. Justement là, ce courage-là, cette mentale-là, elle est insufflée par des centaines de milliers de personnes qui apportent leur soutien, que ce soit financier, les épaules vissées sur la tête ou la tête vissée sur les épaules, comme vous voulez.
Oui.
Et surtout, c'est un club qui n'a rien à se reprocher. Les joueurs en général n'en font pas de faux pas. Il n'y a pas énormément de polémiques au Real. Les supporters n'ont pas de mal à acclamer aussi. On y pense peu, mais Ronaldinho au Bernabeu, je suis désolé. Ils reconnaissent aussi le vrai football. C'est pas une équipe de footix fanatique comme on peut le voir malheureusement sur des terrains. Bon, suivez mon regard, vous l'aurez compris. On en parle souvent, mais c'est vrai que c'est dur à dire. Là, c'est un colchonneros qui dit ça.
Bien sûr, Real
Madrid. Mais bon, Real quand même, c'est très solide. Et je les supporte pas parce que c'est de la triche de supporter le Real.
J'ai juste un petit mot.
Comme si c'était toujours comme ça.
Ouais.
Entre 66 et 98, ils n'ont pas gagné les Champions League.
C'est vrai, il n'y avait pas beaucoup.
Pratiquement 30 ans, ils n'ont pas gagné les Champions League.
Il y a eu des périodes où le Real n'était pas le Real
que nous connaissons depuis la couronne sur la tête, années 90.
C'est vrai.
Mais n'oublions jamais ça, c'est que c'est un club aussi qui n'a pas gagné des titres à un moment donné.
C'est Zizou qui a ramené les étoiles.
Et moi, il y a un fait majeur qui m'a marqué au Real Madrid, c'est quand il y a eu l'époque des Galactiques.
Ouais.
Quand on a parlé Beckham, Roberto Carlos, Zidane, Ronaldo, etc. Et là, on a l'impression que ils ont changé de sphère. Et on aime bien parler ici de marketing, de sport business. Et c'est eux, en fait, c'est eux les précurseurs. C'est le Real Madrid qui a fait que le business mondial, ils deviennent blancs. Ils deviennent Real Madrid, clairement. C'est eux.
C'est eux qui t'ont donné envie d'aimer aussi le football.
Un peu, c'est vrai. Tu reconnais, les Galactiques,
c'est un vrai supporter du Real Madrid, carrément.
J'en ai marre de les voir à chaque fois dans les derniers carrés et soulever les coupes. C'est ça, en fait, c'est frustrant, en fait.
Il y a une politique, celle de Florentino Pérez, qui a dit, il y a deux choses qu'il a dit dans toute sa longue carrière, auxquelles il a eu raison. Et à un moment donné, il a dit, tous les ballons d'or doivent passer ou avoir passé par le Real Madrid. Et c'est vrai qu'il est allé chercher beaucoup, beaucoup de ballons d'or et d'autres qui l'ont gagné en étant du côté du Real Madrid. Et la deuxième chose qu'il a dit,
c'est que
je préfère investir dans un gros joueur qu'augmenter les salaires de tous mes joueurs. Et c'est pour ça que vous avez eu Ronaldo, les deux Ronaldo, que vous avez eu Beckham, qui a eu Kaká, qui a eu il y a eu tous ces grands joueurs qui sont passés, Figo, etc., qui sont passés par le Real.
Merci, Juan José. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On revient rapidement avec toute l'équipe de Tam Sport pour le prochain dossier. Luis Enrique, le Paris Saint-Germain.
Tam Sport revient dans un instant. Beurre FM, la redille. La redille. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour après cette courte pause, 20h et 21 minutes ensemble jusqu'à 21h avant d'accueillir Vanessa qui arrivera 21h, 23h hein, pour vous, les auditrices et les auditeurs de Beurre FM dans Confidence. Juan Trossé est là avec Jouba, le roi de la cabine, et sans oublier Karim aussi qui me font le plaisir de m'accompagner jusqu'à 21h. 2-0, 61e minute de jeu, 3-0. Voilà, c'est Karim qui est assez chaud. Et le PSG, mange du merlu ce soir du côté de la région de la Bretagne. Allez, place au second dossier de cette émission.
Time Sport. La parole des sociaux.
C'est ça. Moha, c'est un peu la jauge dans ce studio. Il a fait un petit pas funky pour nous rappeler que Paris est très très grand, hein, tout comme le Real Madrid. Karim Jouba, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, qui est tant aimé par Karim, notre consultant. Et oui, Luis Enrique, il a été décrié, mais en tout cas, toi et aussi Boula, respect, parce que vous avez dit de belles choses sur l'entraîneur ibérique. Hein.
Alors, Luis Enrique vient avec une certaine bouteille, et là, il le démontre encore. Il peut être champion dès ce soir si Monaco fait une contre-performance. C'est à Lille, il me semble, si je me souviens bien. Là, ils ont le moyen de vite clore ce chapitre-là, de se focus sur la Ligue des Champions, cette Ligue des Champions, cette coupe aux grandes oreilles qui tient un temps et qui manque tant au Parc des Princes et aux supporters du PSG. Ils ont l'occasion de le faire avec un effectif qui touche à la fin d'un cycle, sûrement avec le départ de Kylian Mbappé, qui a été quand même malgré malgré tout un gros symbole de cette équipe-là, meilleur buteur de l'histoire du club, devant Edinson Cavani. Donc c'est évidemment un monument du foot, un Asturien, comme disait Juan José, un gars de la péninsule, la péninsula, comme ils disent là-bas sur les îles Canaries. Et ben c'est un gars qui a imposé quelque chose, qui a fait monter, je le disais, crescendo cette équipe-là. Luis Enrique, c'est ce qu'il fait. Non déplaise à l'ami Karim qui est en face de moi, Luis Enrique n'est pas Galtier, Luis Enrique n'est pas Unai Emery, Luis Enrique n'est pas Pochettino.
Aussi, tu vois,
non, il respecte, mais c'est deux classes d'écart. Il est sûrement du niveau d'Ancelotti qui a fait un petit pas et puis il s'en est allé, mais et qui est dans la même catégorie parce que c'est des grands vainqueurs. Mais sinon, on parle pas à Luis Enrique comme on parle à Galtier. Ça, c'est quelque chose qu'on doit se dire ici, les mecs. Après, là, les gars, il faudra aussi compter sur tout ce public-là qui doit montrer que c'est pas un public de footchicks, que c'est pas juste, ils sont pas là parce que il y a Mbappé, c'est pas là parce qu'il y avait juste Neymar et Messi. Ils sont là parce qu'ils ont aussi l'amour du maillot. Et ça, malheureusement, le Qatar, en arrivant avec le Bling Bling Saint-Germain, avec le projet QSI, a dénigré un peu cette mentalité du foot de cœur et on a fait un club de footchicks. Et là, cette année, avec la fin de cette posture-là du Qatar et avec un réaxage purement sportif, et bien là, on s'y dirige petit à petit.
Allez, Karim, on l'écoute, Karim.
Moi, je suis en partie d'accord avec
le Paris Saint-Germain.
Mais il y a une chose qui est fausse, c'est que Luis Enrique s'était trompé au début de saison. On voyait des compositions qui n'avaient rien à voir, on voyait pas de joueurs. Et surtout le cas Mbappé. Attends, je vois.
Allez,
le
vas-y.
Cas Mbappé. Et là, comme par hasard, contre Lorient, il le remet titulaire. Là, il est en train de le remettre titulaire. Donc ça se voit qu'il a changé de fusil d'épaule avec le cas Kylian Mbappé.
Il a toujours été titulaire.
Luis Enrique, est le résultat des années de travail au Paris Saint-Germain. C'est, on dirait, en t'entendant, Jouba, on dirait Luis Enrique, c'est lui le magicien, c'est lui qui a fait les fondements de ce club et c'est lui qui a fait le travail depuis plus de 10 ans. Non, c'est pas lui. Là, il est au chevet, il a la conclusion d'un club, d'une institution qui, cette année, a travaillé normalement. Parce que, on le rappelle, 10 ans auparavant, pendant 10 années, le Paris Saint-Germain ne travaillait pas dans le sportif. Il travaillait dans autre chose.
Dans le business,
business, marketing, de com, de ce que vous voulez, mais c'était pas du sportif. Et là, Luis Enrique, il bénéficie des années d'attente des supporters, des années d'attente des gens de ce club qui voulaient travailler sur le football et non pas sur autre chose. Ouais. Donc c'est trop donner de crédit à Luis Enrique en fait. Et surtout, il va peut-être gagner le championnat, mais on attend le match contre Dortmund, les deux confrontations, et le match contre Paris en Coupe de France.
Pour le moment,
il y aura un client, ce sera pas le même match qu'on a eu contre l'OL en championnat.
On va savoir, contre Luis Enrique, le PSG.
Je suis tout à fait d'accord, il faut une chronique Karim contre le monde, sincèrement.
Allez, vas-y,
Karim contre le monde. Là, il est sûr d'avoir des auditeurs contre.
Bien sûr. Allez, vas-y.
Et même des commentateurs. Alors, la première des choses, je suis plutôt de l'avis de Jouva. Alors, non, Luis Enrique ne profite pas du travail acharné pendant une dizaine d'années des autres. Non, excuse-moi, je ne le pense pas. Parce que c'est pas Luis Enrique qui a hérité d'une triplette Messi, Neymar, Mbappé. C'est pas lui qui a eu Cavani, qui n'est plus là non plus.
Oui.
Hein? Les Ramos, les jeunes qui sont allés en première équipe avec Luis Enrique, c'est pas le travail des autres.
Ça a été
le travail de Luis Enrique. Luis Enrique n'est pas un entraîneur facile. Il n'était pas un joueur facile. D'ailleurs, c'est un joueur, remarquer, parce qu'on peut penser aujourd'hui, dans les temps qui courent, que les joueurs vont à droite et à gauche. Luis Enrique n'a joué qu'au Sporting de Gijón quand il a débuté en première division, au Real et au Barça. Voilà les trois clubs a joué en tant que joueur. Donc après, en tant qu'entraîneur, il a été formé au Barça B avant d'arriver au Barça A. Mais c'est vrai qu'il est passé par l'Italie puisqu'il a entraîné. C'était pas terrible du côté de la Roma. C'était pas vraiment beau à voir ce qu'il avait fait là-bas. C'était sa première année en tant qu'entraîneur premier. Et c'est vrai, par contre, qu'il a fait un très beau travail à un moment donné avec le Celta avant qu'il soit rappelé du côté de la sélection et du Barça. Donc, Luis Enrique, c'est un cas réel. C'est quelqu'un qui a décidé et qui va aller au fond avec ses idées. C'est pour ça qu'il y a
un moment donné, ça a été compliqué avec Mbappé, le fait ces dernières semaines de le faire sortir au bout d'une heure. Il l'aimait pas trop, mais bon, c'est une façon de coacher.
Rempli de vivacité.
Celle des
qui met en avant cette jeunesse aussi, Juan José.
La jeunesse, il l'a prouvé du côté de Barcelone quand il a été coach avec la Masia. Il l'a prouvé avec les jeunes formés au PSG. Je vous rappelle combien de débats on a eu ici même sur les jeunes du PSG qui ont dû partir, et chaque pas semaine. Uniquement que dans des clubs
Merci,
français qui sont partis en Angleterre, qui sont partis en Allemagne parce qu'ils n'avaient pas l'opportunité de pouvoir jouer. Je dis pas triompher, mais jouer.
Il y en a plein,
est un caractériel, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais il fait son boulot et il est en train de se gagner
pour le moment.
Ce public qui ne l'avait pas pété trop au début,
ça commence à changer du côté du
surtout Paris Saint-Germain, du PSG.
Voilà, et tout le monde, Jouba, avant de retrouver son balle, on va revenir à toi.
Globalement, quand même, il y a eu beaucoup de choses intéressantes de dites par Juan José. Il y a aussi cet apport là au niveau de la jeunesse. C'est clair que on décriait évidemment ça quand on voyait les
Mohamed disait donner la chance à ces jeunes joueurs,
qui les Bessot, et tous ces mecs là qui étaient jetés.
Il a pas peur,
qui était jeté. Non, mais c'est surtout qu'il a fixé ses conditions. Il a dit, si je reviens dans le Big Bling Saint-Germain, dans le Soft Power Saint-Germain, dans le Business Saint-Germain, moi je reviens pas. Il a eu des garanties. Luis Campos a été maintenu à ce poste de président, de directeur sportif, pardon. Et donc il a eu aussi des recrutements douteux quand même, on va pas se mentir. Notamment ce qu'il a fait avec Jorge Mendes, de faire parachuter des joueurs inconnus au bataillon. Il y en a qui par copinage sont arrivés dans ce club et qu'il a dû gérer. Il a eu des moments de doute aussi avec Luis Campos, mais il a réussi en tâtonnant. Et c'est justement pour ça que ce début de saison était en dents de scie, parce qu'il devait prendre conscience de toute l'étendue de son effectif. Et une fois qu'il a eu ça, il est monté crescendo. De toute manière, on le dit et on le redit, les coachs doivent être prêts pour la deuxième partie de saison. Combien de fois au PSG on voyait des superbes premières parties, et derrière, huitième de finale, hasta luego, ciao. Là, Luis Enrique, il est entraîneur d'un club de foot, contrairement aux autres. D'un vrai club de foot.
Tu en penses quoi sur l'âge, justement?
Non, Enrique, mais moi je m'excuse, mais Karim, je dois revenir sur un truc quand même.
Allez, tu reviens sur Karim.
Mbappé, il peut pas le faire jouer tous les jours.
Ouais.
Moi, personnellement, j'ai un garage avec dedans des 400 chevaux, des 500 chevaux, des 1 million de chevaux, si tu veux. Je vais pas la sortir tous les jours, mais j'ai pas envie de cramer ma voiture.
Voilà.
C'est normal. J'ai pas envie qu'il y ait, je sais pas, un caca de pigeon qui tombe dessus, ou de la rire, ou d'avoir quelqu'un intentionnellement qui aime pas les belles voitures et qui vient mettre un gros chassé dedans. C'est arrivé plein de fois. Il y a des joueurs comme ça qui narguent de par leur talent. Neymar, on l'a bien vu, il y a plusieurs fois où je pense que bon, ça le traite de simulateur, mais il y en a plus d'un qui ont été briefés dans le vestiaire. Allez, et bien avant Neymar, ce genre de méthode, on les connaît. Là les aussi. Italiens là aussi connaissent un peu ce genre de méthode. Ils sont plutôt dans le côté adverse, mais c'est vrai qu'il y a des équipes depuis la nuit des temps qui s'occupent de ces joueurs-là, qui s'occupent et des joueurs qui suivent au maillot et à la cheville. Cette phrase, elle est connue. Les entraîneurs, des fois, ils vont prendre un joueur avant le match, ils vont mettre presque un coup de pression. Ils vont lui dire, ok, tu vas être dans le couloir, tu vas le suivre. Tu vas être sur le terrain, tu vas le suivre. Il y aura la mi-temps, on va remonter, tu vas encore le suivre. Quand tu vas aller aux toilettes, tu vas le suivre.
C'est ça, Marc.
Ça fait partie de ça. Faut pas laisser jouer tout le temps. Enrique a raison.
Vous voyez quand même, alors, par exemple, les confrontations contre l'OM. Et ben les mecs là, ils sont ultra chauds, hein, parce que il y a une identité du club qui a été retrouvée. Quand tu vois des Kolo Muani, des Mbappé, des jeunes, des Dembélé, des mecs qui ont connaissance de ce que le classico à la française. Et ben tu vois quand même. Et il y a un lien supplémentaire.
C'est pas Luis Enrique qui a inventé tout les amis.
Attends. La francisation, la sortie l'année dernière, c'est une décision de Doha qui a décidé de réancrer un peu ce club dans sa ville d'origine, donc dans le PSG, d'arrêter d'importer des méga stars, d'essayer de connecter un peu ce club à son public. Mais Luis Enrique a clairement permis cette connexion-là. Il a donné du crédit, et je trouve beaucoup aussi à Kolo Muani, qui a été moyen.
Qui a donné.
Mais qui a fait des choix au fur et à mesure. De toute manière, les supporters du PSG s'en foutent maintenant de la Ligue 1, s'en foutent de la Coupe de
Ligue des Champions.
Ce qui les intéresse, c'est la Coupe aux grandes oreilles.
2023-2024, l'édition Champions League, on espère, pourquoi pas. Karim,
je voulais ajouter deux choses par rapport à ce débat. On n'a pas attendu Luis Enrique pour faire un travail de normalité d'un coach, faire une équipe, trouver une cohésion. On n'a pas attendu Luis Enrique au Paris Saint-Germain pour que le Paris Saint-Germain joue au football. Moi, qui après, par contre, j'ai pas attendu Luis Enrique pour taper sur l'institution PSG avec en utilisant Kylian Mbappé en fait dans ouais. tout ça. Ça, franchement, il s'est trompé et vous allez le voir, il s'est trompé sur ce coup-là. Et troisièmement, le jeu footballistique là, du Paris Saint-Germain.
Vas-y.
Ça fait des années que le Paris Saint-Germain, surtout à domicile, surtout au parc, livre un vrai football. Et c'est pas Luis Enrique, j'ai pas attendu Luis Enrique pour voir le Paris Saint-Germain jouer au football. Non, donc oui. Vous donnez trop de crédit à Luis Enrique. Mais vous verrez que j'aurai raison plus tard.
Heureusement que vous n'avez pas attendu Luis Enrique pour que ça joue au football au PSG, parce que sinon, où serait parti les centaines de millions qui ont été investis dans ce club.
Moi, j'avais juste deux petites choses rapidement.
Vous avez parlé à un moment donné des entraîneurs. Hormis Emery, qui est arrivé et qui avait des titres internationaux parce qu'il avait gagné à plusieurs reprises l'Europa League. Ce n'était pas le cas de Pochettino, ce n'était pas le cas de Tuchel et ce n'était pas non plus le cas de Galtier. Donc
Ancelotti.
Laurent Blanc est intérieur. Ancelotti, c'est le seul que je n'ai pas cité, justement parce qu'il est intérieur avec Laurent Blanc. Et c'est vrai qu'Ancelotti est parti par la petite porte parce qu'il a été poussé. Bon, tombe bien pour lui puisqu'il est allé au Real. Bon, ça, c'est la première des choses. Donc, côté entraîneur, c'est la ligne de première fois où on va miser sur quelqu'un qui a été déjà sélectionneur, puisqu'il était sélectionneur d'Espagne. Et qui avait déjà prouvé qu'au niveau international, savait gérer un vestiaire, parce que lui a suggéré investir du côté avec des stars.
Il n'a pas suggéré investir au départ d'Espagne contre le Maroc.
La dernière chose, c'est l'un des seuls entraîneurs qui, au milieu de sa gloire, quand il était au Barcelone, comme Guardiola, a décidé de ne pas continuer.
Alors.
A décidé de claquer la porte, comme Zidane et Guardiola l'ont fait. C'est-à-dire qu'il a décidé d'arrêter. Il a décidé pendant. Il est parti après, une année après en sélection. Mais après, il a décidé la sélection. C'est aussi ça. De ne pas entraîner. Il ne s'est pas laissé tenter
pas mal de réactions sur les réseaux sociaux.
Il croit aussi dans le projet.
Et aussi sur le site beurrefm.net, on a Fawzi Henrique, c'est surcoté. Et le Barça était faible aussi. Voilà, c'est ce qu'il nous dit Fawzi qui nous écoute ce soir. Une dernière pause. Avant, ouais. Avant,